C'est un grand plaisir pour moi déjà d'être parmi vous aujourd'hui pour partager avec vous ce que l'on réalise comme travaux, à la fois chez les athlètes de haut ou de très haut niveau, puisque je vais vous présenter une petite partie de ce que l'on a fait avec l'équipe de France de natation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ou avec le Stade Rochelet au rugby, et puis comment donc on adapte toutes ces innovations à d'autres populations qui peuvent être des populations, des personnes vieillissantes qui souffrent ou non de maladies chroniques. Et généralement, on s'intéresse un peu plus aux maladies, au moins aux labos cardiovasculaires. Et là, plus récemment, on applique également tout ce que l'on a développé avec l'équipe de France de natation à des personnes qui souffrent du cancer. Donc, l'objectif, c'est de vous montrer tout cela, comment ces innovations issues du sport de haut niveau peuvent servir la société au sens large. Et puis, on terminera par une vision un peu plus holistique, un peu plus générale, pour montrer que bon, c'est bien d'innover, c'est bien de voir si ça fonctionne avec des personnes qui ont des profils différents des athlètes, mais que l'enjeu, il est ailleurs. Donc, on terminera avec un petit peu de hauteur pour relativiser finalement ce que peuvent apporter les sciences du sport et ce qui peut permettre à une société d'être un peu plus active et un peu plus en santé au-delà de cela. Alors, pour débuter, peut-être juste deux définitions, puisqu'on parle d'activité physique, d'inactivité physique, vous entendez souvent parler de sédentarité également. Donc, juste deux définitions, et puis après, donc, je vais vous présenter le cadre général qui explique pourquoi il est si important pour nous eh bien, de bouger et d'être le plus actif possible pour notre santé, mais aussi pour nos performances cognitives, notamment quand on est étudiant ou quand on a réalisé un certain nombre de tâches qui impliquent beaucoup le cerveau. Alors, pour débuter, l'activité physique, puisqu'on va beaucoup en parler, comment on la définit ? Eh bien, c'est tout simplement tout mouvement corporel qui est produit par des contractions du muscle squelettique. Donc, dès que je bouge, que je fasse ça, ou que je cours, que je fasse du vélo, que je nage, eh bien, on va considérer cela comme de l'activité physique. Et la conséquence, ça va être qu'on obtient une augmentation de la dépense énergétique. Ça nous coûte de l'énergie, tout simplement. Et cet élément lié à la dépense énergétique, il est central. C'est justement parce qu'on augmente notre dépense énergétique qu'on va obtenir un certain nombre de bénéfices qui vont nous permettre soit de prévenir l'apparition de maladies chroniques, soit de traiter ces maladies chroniques. Et là, on va parler d'activité physique à visée thérapeutique. À côté de cela, eh bien, on parle souvent d'inactivité physique. L'inactivité physique, ce n'est pas uniquement le fait de ne pas bouger. En fait, c'est plutôt ne pas bouger assez. C'est-à-dire qu'on se réfère à une norme internationale qui varie selon les époques, mais depuis quelques années quand même, eh bien, la norme unanimement acceptée, c'est 1000 mètres-minutes par semaine. Alors, comme ça, ça ne vous parle absolument pas. En fait, les mètres, c'est une intensité d'exercice. Par exemple, au repos, quand on bouge peu, on considère qu'on est à 1 mètre, c'est un équivalent métabolique de repos. Si je marche, eh bien, j'ai augmenté cette dépense énergétique. Donc souvent, la marche est aux alentours de 5 mètres. Si, comme Eliud Kipchoge, vous courez le marathon en moins de 2 heures, eh bien, vous allez avoir une dépense énergétique de l'ordre de 20 mètres pendant 2 heures. D'accord ? Donc c'est une mesure d'intensité de dépense énergétique. Et on parle de mètres-minutes. Ben, tout simplement, si je marche 30 minutes dans la journée à 5 mètres, je fais 30 fois 5, ça me fait 150 mètres-minutes. Et si je fais ça 6 fois dans la semaine, j'atteins à peu près la valeur requise. Donc, l'inactivité physique, c'est tout simplement le fait d'avoir une dépense énergétique qui est inférieure à cette valeur. Je suis en dessous de 1000 mètres-minutes, je suis considéré comme inactif ou inactive. Et puis, je suis au-dessus de 1000 mètres-minutes, je suis considéré comme actif ou active. Sachant que ce seuil, c'est vraiment le niveau minimal à partir duquel on commence à avoir des bénéfices. Si on a des niveaux de dépenses d'énergie plus importants, voire beaucoup plus importants, ben c'est encore mieux pour notre santé, notre bien-être et le maintien de notre autonomie. Alors, ce lien qu'il y a entre activité physique et santé, eh bien, il n'est pas nouveau. Platon, déjà, vous voyez, déclarait « Chez l'homme, le manque d'activité physique détruit la bonne condition, alors que le mouvement et l'exercice physique méthodique la préservent. » Donc c'était du bon sens, et ce bon sens, il a perduré pendant des siècles. Et c'est au XXe siècle où on observait une transition qui fait qu'on a perdu un petit peu ce bon sens. Bon, il y a eu de moins en moins de monde dans les campagnes pour aller dans les villes. Et puis, ce faisant, eh bien, on a eu aussi une tertiarisation de l'économie, de plus en plus d'emplois où on est inactif, où on ne bouge pas. On a perdu ce sens commun, quelque part, à tel point qu'au début, enfin au milieu du XXe siècle, on a même considéré pendant un temps l'activité physique comme un facteur de risque. Il fallait éviter de bouger, bon, dans des contextes quand même très particuliers. Là, il s'agissait de personnes qui venaient d'avoir un infarctus. Et ces deux cardiologues, qui sont deux sommités vraiment de l'époque, eh bien, avaient pu montrer que lorsqu'on a eu un infarctus, il fallait à peu près 8 semaines au myocarde pour « cicatriser », entre guillemets, « cicatriser ». Donc, la recommandation de l'époque, mais qui s'appuyait aussi sur les connaissances de l'époque, c'était que quand on faisait un infarctus du myocarde, eh bien, il fallait rester alité ou bouger le moins possible pendant au moins 8 semaines. À l'heure actuelle, grâce notamment à un certain nombre de travaux que nous avons réalisés à Montréal, eh bien, la recommandation, c'est de bouger le plus vite possible et avec des exercices à haute intensité. On va y revenir. Donc voilà, à un moment, activité physique, eh bien, était assimilée à un facteur de risque. Mais ces personnes, quand même, étaient, enfin, c'était les personnes brillantes de leur temps, elles s'appuyaient sur les connaissances. Et Paul White, notamment, a été le médecin, le cardiologue de Dwight Eisenhower. Alors, ça vous renvoie peut-être à vos cours de lycée. Dwight Eisenhower, c'était un général de la Seconde Guerre mondiale qui a été président des États-Unis. Et il a eu un événement cardiaque avant de participer aux élections à la présidence des États-Unis. Et donc Paul White, qui était son cardiologue, lui a dit que, bon, pourquoi pas, bien sûr, c'était sa décision hein, de se lancer dans la course à la présidence, mais qu'il n'avait pas de choix. Si vraiment il voulait rester en vie suffisamment longtemps, il fallait qu'il intègre l'exercice et l'activité physique dans son quotidien. Donc on voit que même ces personnes qui, 15-20 ans auparavant, recommandaient de ne pas bouger, ont bien sûr évolué dans leur représentation. Et c'est au milieu des années 50, que la première étude de grande cohorte a été publiée et a montré un lien étroit entre activité physique, sédentarité. Sédentarité, c'est tout simplement le fait de rester assis sur des périodes prolongées. Donc, un lien entre activité physique, sédentarité et risque d'infarctus du myocarde ou de mortalité prématurée. Dans cette étude, Jeremy Norris, donc, qui était un médecin londonien, a tout simplement quantifier l'incidence du myocarde dans deux populations. Les chauffeurs de bus londoniens, qui sont donc inactifs puisqu'ils ne bougent pas de la journée, ils sont assis, et sédentaires puisqu'ils sont assis à nouveau. Et les ont contrôlés, comparés aux contrôleurs. Les contrôleurs, eux, qui étaient actifs, ils bougeaient tout le temps, ils montaient, ils descendaient, et qui étaient debout. Donc ils n'étaient pas sédentaires. Et vous voyez qu'au final, eh bien, quelle que soit la catégorie d'âge, le risque d'infarctus du myocarde était 2 fois plus élevé chez les personnes qui étaient inactives et sédentaires, donc les chauffeurs de bus. Donc c'était le point de départ de toute une vague d'études, soit de grandes cohortes, soit d'études sur des cohortes beaucoup plus petites, qui ont permis d'établir progressivement ce lien entre activité physique et santé. Là, tout simplement, ce que je vous ai mis, c'est justement une répartition de ces études au cours du temps pour montrer qu'il y a vraiment eu une évolution exponentielle. Sur PubMed, qui est un moteur de recherche que vous devez certainement connaître, j'ai tout simplement mis les mots-clés « physical activity and health » et j'ai classé le nombre de citations par décade, vous voyez, de 1940 à 49 jusqu'à 2000-2019. Bon, la figure se passe de commentaires, vous voyez qu'on a vraiment eu une explosion du nombre d'études s'intéressant à cette problématique, puisqu'on est passé en gros de 13 à plus de 130 000 en quelques décennies. Cette augmentation de nos connaissances sur les liens qu'il y a entre les deux, eh bien, ont permis, au cours de la dernière décennie, d'établir un certain nombre de ce qu'on appelle des positions de consensus. Donc, ce sont des synthèses de nos connaissances à un instant T, souvent réalisées par des sociétés savantes, et qui vont servir de référence au niveau international. Donc on en a eu au niveau national déjà, avec l'INSERM en 2018, avec l'ANSES également, qui a publié une position de consensus, et au niveau international, eh bien, l'Organisation mondiale de la santé, qui publie régulièrement des positions et des mises à jour de ces positions, qui à chaque fois renforcent ce lien entre activité physique et santé. Donc maintenant, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'activité physique à visée thérapeutique, où on considère l'activité physique non pas seulement comme un moyen pour prévenir l'apparition de maladies chroniques et puis vieillir en conservant son autonomie et son bien-être, mais aussi comme un traitement à part entière d'un grand nombre de maladies chroniques. Pas toutes, mais un grand nombre quand même. Donc, activité physique à visée thérapeutique. Et tout cela a amené progressivement le législateur à modifier le code de la santé, de sorte qu'à l'heure actuelle, il est possible pour les médecins de prescrire l'activité physique comme traitement, de la même façon qu'ils vont prescrire des traitements antihypertenseurs, d'autres types de traitements pour le diabète, les dyslipidémies, l'hypertension, les maladies cardiaques, etc. Alors, c'est quand même dans un contexte très particulier, ce n'est pas pour tout le monde. Pour le moment, c'est spécifique aux personnes qui ont le statut d'ALD, donc affection de longue durée. Ce sont des personnes qui, quand elles souffrent d'une certaine maladie chronique, il y a toute une liste, eh bien, peuvent bénéficier d'une prise en charge à 100% par l'assurance maladie de toutes les dépenses associées à cette maladie. Okay ? Donc, cette possibilité de prescrire, elle est quand même cantonnée aux personnes qui sont sous ALD. Alors, pourquoi finalement et quelles vont être les principales conséquences du fait d'opter pour un mode de vie physiquement actif ? Au début, on s'intéressait plutôt à l'espérance de vie, au lien qu'il pouvait y avoir entre les deux. Sur cette courbe, vous voyez l'évolution de l'espérance de vie de la population française au cours des 275 dernières années, à peu près. Donc on voit qu'il y a une augmentation linéaire, avec bien sûr des creux qui souvent sont associés aux périodes, enfin tout le temps, sont associés aux périodes de guerre. Mais à l'heure actuelle, et depuis peu de temps, 2023, l'espérance de vie des hommes, ça fait plus longtemps déjà pour les femmes, mais l'espérance de vie des hommes en France dépasse les 80 ans. Alors, plusieurs aspects contribuent à cette augmentation de la longévité. Il y a notamment la baisse très importante de la mortalité infantile. Ici, en 1750, il y avait un enfant sur deux qui décédait la première année de sa vie, ce qui est la définition de la mortalité infantile. Maintenant, c'est descendu à des chiffres vraiment très très bas, même s'il y a toujours, bien sûr, de la mortalité infantile. Mais ça y a contribué. Et le second facteur qui a permis d'augmenter cette espérance de vie, eh bien, c'est ce que l'on appelle donc la longévité, donc l'espérance de vie, une fois qu'on a atteint l'âge de 65 ans. Donc là, vous voyez, c'est un nombre d'années que vous avez ici en ordonnée, le nombre d'années de vie une fois qu'on a atteint l'âge de 65 ans. Et vous voyez que ça a été quelque chose de très stable jusqu'au milieu du XXe siècle. Au milieu du XXe siècle, il y a une différence qui a commencé à apparaître entre les hommes et les femmes. Et vous voyez qu'il y a une augmentation très importante à partir du milieu du XXe siècle. Ce qui est lié à quoi ? Un grand nombre de progrès, bien sûr, des progrès en termes d'imagerie qui permettent d'avoir un diagnostic beaucoup plus précoce, précis et plus précoce. Des innovations aussi dans tout ce qui concerne la transplantation, dans tout ce qui concerne les chirurgies d'urgence, qui fait qu'à l'heure actuelle, eh bien, les services d'urgence cardiologiques, par exemple, ici à Poitiers, entre autres, permettent de faire des miracles. C'est incroyable ce qu'ils sont capables de faire. Mais on est toujours aussi peu performant pour empêcher d'avoir besoin d'un recours aux urgences et faire qu'on vieillit avec un cœur en santé qui n'a pas besoin d'une chirurgie de ce type. Donc vous voyez que d'un côté, on a amélioré beaucoup tout ce qui concerne le soin, mais on est resté quand même très en retard sur tout ce qui concerne la prévention et tout ce qui va être associé aux habitudes de vie de façon générale. Néanmoins, tout cela a contribué à l'augmentation de cette longévité. On vit de plus en plus longtemps, en France et dans la plupart des pays. Alors, cette longévité, elle a des conséquences, bien sûr. C'est pas neutre. Et quel que soit, que l'on soit un homme ou une femme, eh bien, au fur et à mesure où on vieillit, ça va être associé à un certain nombre de limitations fonctionnelles qui peuvent être liées à la douleur, qui peuvent être liées aussi à la baisse de la condition physique. On va observer également une augmentation de ce que l'on appelle la morbidité, c'est-à-dire le fait de souffrir de une ou plusieurs maladies chroniques. Alors bien sûr, certaines personnes peuvent atteindre un âge très avancé sans aucune maladie chronique. Il y a une grande injustice, on va dire, entre individus par rapport à cela. Mais voilà, toujours est-il qu'en moyenne, eh bien, la probabilité de souffrir de maladies chroniques, notamment d'hypertension, puisque c'est le facteur principal de risque, le principal facteur de risque, c'est l'âge. Donc la probabilité de souffrir d'une maladie chronique augmente, bien sûr, au fur et à mesure où on vieillit. Et tout ça fait que la perception que l'on a de notre santé, eh bien, à partir d'un moment, se dégrade. À partir de là, eh bien, on parle de moins en moins d'espérance de vie comme bénéfice le plus important lié à l'activité physique, aux habitudes de vie, mais plutôt de l'espérance de vie en bonne santé. Parce que personne n'a envie de vivre plus longtemps si c'est pour être en perte d'autonomie et ne pas profiter de la vie. Donc ici, vous avez justement certaines répartitions, on va dire, d'années. Par exemple, pour les limitations fonctionnelles, on voit qu'une fois qu'on a atteint l'âge de 65 ans, ici, que l'on soit un homme ou une femme, eh bien, on a à peu près 8 à 9 années sans limitation fonctionnelle. Ensuite, on a une phase de transition, en orange un peu plus foncé, et vous voyez, généralement, en moyenne, j'insiste sur en moyenne parce que ce n'est pas inéluctable du tout, on va voir, mais en moyenne, les 3 à 5 dernières années de la vie sont plutôt associées à un certain nombre de limitations fonctionnelles. Si on regarde les maladies chroniques, alors il n'y a pas de zone intermédiaire dans les statistiques parce qu'une maladie chronique, c'est un diagnostic. On souffre d'hypertension, on ne souffre pas d'hypertension, on n'est pas entre deux, d'accord ? Mais dans les faits, il y a bien une phase malgré tout où notre corps se transforme. Néanmoins, vous voyez qu'en moyenne, on a 6 ou 7 ans après 65 ans sans maladie chronique, et puis après, la probabilité elle est beaucoup plus élevée. Et les deux, limitation fonctionnelle et maladie chronique, ont un impact, vous voyez, comme je le disais précédemment, sur la perception que l'on a de notre santé. Elle est globalement très bonne pendant 7 années environ. Ensuite, elle est modérée pendant une période qui va de 7 à 9 ans. Et puis, les 3 à 5 dernières années de la vie, en moyenne, on a une mauvaise perception de notre santé. Donc, c'est pour ça que vous voyez que l'enjeu, j'insiste, ça n'est absolument pas de rajouter encore des années si c'est pour avoir plus d'années dans la zone rouge. Ce que l'on veut, en fait, c'est augmenter au maximum cette période où on est complètement autonome, on se sent en bonne santé, on profite de la vie, on a une bonne qualité de vie, et puis réduire au maximum les deux autres zones. Alors, cet enjeu, comment on peut l'atteindre ? Eh bien, il y a un certain nombre de cohortes qui ont été réalisées, de cohortes longitudinales, qui ont étudié la relation qu'il y avait entre un certain nombre d'habitudes de vie et, justement, cette espérance de vie en bonne santé ou le fait de souffrir de telle ou telle complication de santé. Dans cette étude d'Agneta Ekesson, une collègue suédoise, eh bien, elle a suivi donc une cohorte de, si j'arrondis, 21 000 hommes âgés de 45 à 79 ans. Il n'y a pas de femmes. J'y reviendrai, on va voir une autre après où il y a des femmes, mais souvent c'est un problème. C'est-à-dire que trop de nos conclusions sur habitudes de vie santé s'appuient sur des données issues des hommes, comme si on pouvait généraliser, ce qui n'est absolument pas le cas. Néanmoins, dans cette étude où il n'y avait que des hommes, à l'inclusion, en 1997, il n'y avait aucune maladie chronique. Et puis, à l'issue de la période de suivi qui a duré 13 ans, il y a eu un certain nombre de décès, un certain nombre d'infarctus, etc. Ils les ont tout simplement repérés. Et puis après, ils ont fait des statistiques pour voir le lien qu'il pouvait y avoir avec un certain nombre d'habitudes de vie pour voir celles qui étaient le plus sensibles. Alors, qu'est-ce qu'ils ont observé ? Ben, avant de vous donner les habitudes de vie qui ont un impact, cette première figure pour vous montrer qu'il y a un effet additif des habitudes de vie. Ici, vous avez le risque relatif de souffrir d'un infarctus du myocarde en fonction du nombre d'habitudes de vie favorables pour la santé que vous cumulez. Si vous n'avez aucune habitude de vie favorable pour la santé, c'est le risque 1. D'accord ? C'est le risque normal. Si j'ai une première habitude de vie favorable, ben on voit que ce risque diminue de l'ordre de 20%. Et plus j'ajoute d'habitudes de vie, plus le risque relatif de souffrir d'un infarctus du myocarde, ici, diminue. De sorte que si on cumule 5 habitudes de vie favorables pour la santé, eh bien, on a une diminution du risque relatif de 80%. C'est vrai pour l'infarctus du myocarde, c'est vrai pour le diabète, et c'est vrai pour un certain nombre d'autres maladies chroniques. Pas toutes, encore une fois. Deuxième étude, je vais vous donner les habitudes de vie après. Cette fois-ci, il y a des femmes. Donc, c'est une étude, c'est une collègue chinoise, mais c'est une étude qui a été réalisée aux États-Unis. Il y avait, vous voyez, 79 000 femmes et, si j'arrondis, 44 000 hommes âgés de 45 à 55 ans. Et c'était un protocole très comparable. Un suivi longitudinal plus long, 34 ans. Au cours de cette période, il y a 42 000 décès qui ont été documentés. Et ils ont fait le lien entre habitude de vie et le risque de mortalité prématurée. Le résultat, qu'on soit un homme ou une femme, est exactement le même. Plus on accumule d'habitudes de vie favorables pour la santé, plus l'espérance de vie s'allonge. Donc, on voit bien que ce n'est pas seulement l'activité physique, c'est un mode de vie général qui peut contribuer à l'amélioration de notre santé. Alors, qu'est-ce qui ressort dans ces deux études comme principale variable ayant un impact sur la santé? On retrouve l'alimentation. Alors là, j'ai mis quelques critères qu'il mentionnait, mais c'est un peu plus complexe que ça, bien sûr, mais ça donne quelques repères. On retrouve le fait d'avoir un poids corporel normal. Ce n'est pas vraiment une habitude de vie, c'est plutôt une conséquence des habitudes de vie, mais c'est vrai que le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque important pour le diabète et puis l'hypertension et d'autres maladies chroniques. Donc, ils ont pu constater effectivement que les femmes qui avaient un tour de taille de plus de 88 cm ou les hommes de plus d'un mètre, eh bien, ils avaient un risque qui était plus important. Ne pas fumer. Donc là, ce n'est pas une cigarette de temps en temps, c'est tout ou rien. Consommer de l'alcool de façon modérée et il y a une quantité. Donc là, ce n'est pas tout ou rien. D'accord, c'est une relation qu'on appelle en J, en tous les cas. Et puis, le fait de pratiquer une activité physique régulière et de diminuer le temps de sédentarité. Donc voilà les facteurs, finalement, les habitudes de vie qui contribuent à améliorer cette espérance de vie en bonne santé. On pourrait ajouter, ce n'était pas étudié à ces époques, mais ça l'est beaucoup plus, de façon beaucoup plus systématique maintenant, on pourrait ajouter le sommeil. Donc nous, on étudie beaucoup le sommeil, justement, au laboratoire. Le sommeil, et puis on pourrait ajouter aussi tout ce qui concerne la gestion des émotions. On se rend bien compte maintenant que l'anxiété, le stress peut créer de l'inflammation, peut avoir un impact sur le sommeil, et que tout cela peut contribuer aussi soit à dégrader, soit au contraire à améliorer ou maintenir notre santé. Donc vous avez, voilà, en gros, les habitudes qui ont un impact sur votre santé. Alors, le thème, là, c'est de la médaille au patient. Donc, vous avez compris un peu quelle était la logique de toute cette évolution, hein, où l'activité physique, c'était juste quelque chose qui faisait partie de nos quotidiens. C'est devenu plus ou moins un facteur de risque. Et puis maintenant, on redécouvre toutes ces vertus, mais au milieu d'autres habitudes de vie qui, toutes ensemble, contribuent à notre santé. Maintenant, on va mettre le focus sur la partie activité physique. Qu'est-ce qu'il faut faire, finalement ? Et quelles sont les meilleures modalités ou les modalités les plus efficaces quand on parle d'activité physique à visée thérapeutique. Et c'est là où on va pouvoir faire le lien entre travaux réalisés chez les athlètes de haut niveau et puis la façon dont on peut l'utiliser chez les patients. Alors, Déjà, si on regarde comment s'entraînent les athlètes de haut niveau. De façon générale, on considère que la performance, dans un grand nombre d'épreuves, d'endurance, mais pas seulement, elle est déterminée par plusieurs variables. La première, qui s'appelle VO2 max, en fait, c'est tout simplement la cylindrée de votre moteur. Plus cette consommation maximale d'oxygène est élevée, plus vous êtes capable de dépenser d'énergie par minute, par unité de temps, donc meilleure est votre cylindrée. Donc ça parle à tout le monde, hein. Si on a une cylindrée élevée, forcément on va être plus performant. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'endurance aérobie. L'endurance, c'est votre capacité à utiliser un pourcentage élevé de votre cylindrée pendant toute la durée de l'épreuve. D'accord ? Donc on peut avoir deux individus qui ont la même cylindrée de moteur, mais qui ne sont pas forcément capables d'utiliser le même pourcentage sur un effort de 1 heure, de 2 heures ou même de 15 minutes. Ben forcément, ça va avoir un impact sur la performance. Tout cela, à la fois la cylindrée, le pourcentage de la cylindrée que vous êtes capable d'utiliser, va déterminer ce qu'on appelle le VO2 ou la consommation d'oxygène à l'exercice. C'est tout simplement votre dépense d'énergie à l'exercice par minute. Plus elle est élevée, plus potentiellement vous pouvez aller vite. Et cette énergie chimique, on la transforme en vitesse grâce à un dernier paramètre qui est tout simplement votre rendement ou votre capacité à vous déplacer de façon efficace. Donc c'est comme une voiture. Une voiture, si on veut mesurer son efficacité, eh bien, on va mesurer la consommation d'essence pour parcourir 100 km à 50, 80, 90, 100 km/h, etc. Hein, et puis une voiture qui consomme 8 litres au 100, bah, elle est moins efficace qu'une voiture qui consomme 5 litres au 100. Bah, c'est exactement la même chose pour nous, sauf qu'on ne va pas mesurer des litres d'essence pour avoir la dépense d'énergie, on va mesurer des litres d'oxygène. Mais ce que l'on va retenir, c'est que cette capacité à se déplacer de façon efficace, c'est un facteur très important de notre mobilité qui va dépendre en grande partie de nos qualités de force et de nos qualités neuromusculaires. Donc, un athlète, quel que soit son niveau, hein, débutant jusqu'au niveau international, va en fait utiliser des stratégies qui lui permettent d'améliorer ses différentes variables. Bien sûr, avec des poids différents selon le sport, hein, le marathonien va mettre plus d'emphase sur l'endurance et VO2 max, là où un joueur de rugby va mettre plus d'emphase sur la force, par exemple. Okay ? Mais ce sont à peu près ces variables que les athlètes vont chercher à améliorer. Alors, comment ils font ? Eh bien, on a trois grandes familles d'exercices que l'on peut utiliser. Les premiers, c'est ce que l'on appelle les exercices intermittents à haute intensité. Un exercice intermittent, ça veut dire qu'on va alterner des périodes d'effort qui peuvent aller de 1 minute à 10 minutes à une intensité relativement élevée. Vous voyez, 85 à 100% de notre cylindrée. Donc ça, c'est une première catégorie d'exercices. Donc souvent, on voit les athlètes qui vont sur une piste, par exemple, et puis qui font un tour vite, un tour lent, etc. Deuxième catégorie d'exercices, c'est ce qu'on appelle les exercices continus d'intensité modérée. Typiquement, quand vous marchez, quand vous allez faire du vélo, quand vous allez faire éventuellement un footing, c'est un exercice continu, parce qu'il y a une seule répétition, on n'a pas de récupération au milieu, un exercice continu qui est à une intensité modérée. On est assez loin du maximum. Et là, vous voyez, l'intensité, elle peut être entre 60 et 70% de notre cylindrée. Alors déjà, sur ces deux premières modalités, si on les compare, eh bien, il y en a une qui est beaucoup plus efficace que l'autre, c'est la première catégorie. Les exercices intermittents à haute intensité vous permettent d'améliorer beaucoup plus votre cylindrée que cette deuxième catégorie d'efforts. Enfin, eh bien, les sportifs, les sportives veulent aussi améliorer leur qualité neuromusculaire. Et là, on va utiliser des méthodes qui vont cibler soit la force maximale, donc la force la plus élevée que vous pouvez mobiliser, soit la puissance maximale. La puissance, c'est donc le rapport qu'il y a entre le niveau de force que vous développez et la vitesse à laquelle vous développez. Donc, par exemple, si je marche et là, je trébuche sur quelque chose et je dois me rattraper, je n'ai pas besoin de développer un haut niveau de force. Par contre, je vais devoir développer une puissance très élevée parce qu'il faut que j'aille très vite. D'accord ? Donc, on a des méthodes spécifiques pour améliorer soit la force maximale, soit la puissance maximale. Donc, vous voyez, trois catégories d'exercices. Et même si ce sont les exercices à basse intensité qui sont les moins efficaces, quand on regarde la répartition des cyclistes professionnels, et c'est la même chose en course à pied, eh bien, ces exercices à basse intensité, en fait, ils représentent, vous voyez, peut-être 80% de l'entraînement. Et c'est seulement 20% où on va utiliser soit du renforcement musculaire, soit des exercices à haute intensité. Parce que certes, c'est plus efficace, mais si on ne faisait que cela, eh bien, on serait épuisé, on se blesserait. Donc voilà, pour les athlètes, si je résume, pour améliorer leur capacité de performance, ils doivent jouer sur plusieurs variables, la cylindrée, l'endurance, l'efficacité de leur foulée, la force. Et pour cela, ils ont ces trois grandes catégories d'exercices. Alors, qu'en est-il maintenant des patients ? Est-ce que les mêmes exercices ont la même efficacité ? Donc, on peut utiliser aussi des exercices continus d'intensité modérée. Il y a un grand nombre de travaux qui montrent qu'effectivement, chez des patients qui souffrent de maladies cardiaques, de maladies respiratoires, du diabète, du cancer ou d'un cancer, eh bien, cette modalité d'exercice, même si elle est à faible intensité, elle permet d'améliorer la cylindrée de votre moteur, l'endurance, elle permet d'améliorer certaines fonctions spécifiques, par exemple votre profil tensionnel quand vous souffrez d'hypertension, le contrôle de votre glycémie ou de la lipidémie quand vous souffrez de diabète ou de dyslipidémie, etc. Et ça améliore le pronostic, donc ça diminue la mortalité toute cause ou d'origine cardiovasculaire. Donc cette première catégorie d'exercices, il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser. Deuxième catégorie, les exercices intermittents à haute intensité. Ce sont les plus efficaces. Et très souvent, on voit les sportifs justement alterner ce type d'effort. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas des exercices qui viennent du milieu du sport. La personne que vous voyez ici sur cette photo, Herbert Reindl, c'est donc un cardiologue allemand, et c'est lui qui a développé vraiment cette modalité d'exercice qu'il utilisait avec ses patients insuffisants cardiaques, qui alternait des périodes d'effort de 30 secondes à une intensité un peu plus élevée, avec des périodes de 30 secondes pendant lesquelles il récupérait et il recommençait. Bon, Reindl connaissait malgré tout très bien le milieu du sport, parce que là, il est en photo avec Josie Bartel, qui a été champion olympique du 5000 mètres à Melbourne. Et donc, sa méthode, finalement, a très vite diffusé dans le milieu du sport au point de devenir vraiment incontournable. Alors, ces exercices intermittents à haute intensité, eh bien, est-ce qu'ils sont efficaces chez les patients ? Et puis, est-ce qu'ils sont, quel est leur niveau de dangerosité, de risque ? Donc, quand j'étais à Montréal, donc c'était publié en 2010, mais ce sont des études qu'on a commencées en 2006, mais il n'y avait quasiment, pour ainsi dire, aucune donnée de publiée au niveau international. Donc, j'étais à l'Institut de cardiologie de Montréal et on a lancé toute une série d'études où on demandait à des patients coronariens, donc qui est de la plaque athéromateuse autour de l'artère coronaire, enfin l'intérieur, des patients insuffisants cardiaques, de réaliser différentes séances à haute intensité. Donc, on comparait, par exemple, des efforts, vous voyez ici, de 15 secondes d'effort à 100%, séparés par 15 secondes de récupération, pendant lesquelles soit on ne faisait rien, soit on pédalait à 50%. On a fait la même chose avec des exercices de 1 minute, toujours à 100%, soit avec une récupération de 1 minute pendant laquelle on ne faisait rien, ou 1 minute pendant laquelle on pédalait à 50% de sa cylindrée. Et à chaque fois, on leur demandait de faire le maximum de répétitions jusqu'à ce qu'ils soient épuisés. Donc au début, bien sûr, on avait probablement plus d'anxiété que les participants. Mais finalement, il n'y a eu absolument aucun problème. Et on a pu montrer... Hop là. Ah, ben, j'ai eu un petit bug dans mon animation, c'est pas grave. On a pu montrer qu'en fait, pour le myocarde, c'était très très bien toléré. Aucune souffrance cardiaque, aucun signe d'inflammation, aucun signe de lyse musculaire au niveau du myocarde, aucun signe d'ischémie. On a l'artère coronaire qui se bouche finalement et qui fait que le muscle n'est plus oxygéné. Aucun problème de ce type. Et ils étaient capables de faire ce type d'exercice pendant 35 à 40 minutes, ce qui est énorme. Ensuite, eh bien, on a vérifié l'efficacité. Donc, on l'a comparé aux exercices continus. Et ici, vous avez la réponse d'un participant. Ici, on voit bien les efforts de 15 secondes. D'accord ? Donc, on a une dépense d'énergie qui est plus importante. On a une fréquence cardiaque qui est plus élevée que par rapport aux exercices continus. Mais ce qui est très important, c'est qu'on est moins essoufflé. C'est ce que l'on voit ici. C'est votre niveau d'essoufflement. Il est plus bas quand on fait ce type d'effort que quand on fait un exercice continu d'intensité modérée. Pourquoi ? Parce qu'en 15 secondes, on n'a pas le temps d'être complètement essoufflé. Et pendant les 15 secondes pendant lesquelles on ne fait rien, on ne bouge pas sur le vélo, ben on récupère. Or, pour eux, l'essoufflement, c'est quelque chose de très important. Ça leur fait peur d'être essoufflé, et là, ils le sont moins. Donc, on a un niveau d'adhésion à ce type de méthode qui est très important. Maintenant, et depuis très longtemps, enfin depuis au moins 10 ans, il suffit qu'on affiche, qu'on mette une affiche pour dire qu'on recherche des patients cardiaques pour tel type d'études sur des exercices à haute intensité, très très vite, on remplit les effectifs. Alors, depuis, bon, on a publié un grand nombre de travaux, je ne vais pas rentrer dans les détails, et tout ça permet de faire ce qu'on appelle des méta-analyses. Une méta-analyse, c'est une méthode qui permet de repérer dans la littérature scientifique tout ce qui a été publié sur un thème donné. Par exemple, exercice à haute intensité et puis aptitude cardio-respiratoire de patients cardiaques. On repère tout ce qui a été publié et ensuite on a une méthode qui va consister à coder tous les articles pour faire comme si au lieu d'avoir par exemple 50 études avec chacune 50 participants, on avait une seule étude avec 50 fois 50, 2500 participants. Donc on voit que le poids de la preuve est beaucoup plus important dans ce cas-là, et les méta-analyses, c'est vraiment le niveau le plus élevé dans la pyramide des évidences. Et on voit qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, plusieurs méta-analyses ont été publiées, et à chaque fois, elles montrent effectivement que les exercices à haute intensité sont les plus efficaces en réadaptation cardiaque. C'est pour ça que je vous disais, à l'heure actuelle, la tendance n'est pas de dire qu'il faut rester alité pendant 8 semaines, c'est dès qu'on peut, on reprend l'exercice, et notamment avec des exercices à haute intensité, sous forme de 15 secondes ou 30 secondes d'effort, avec des périodes de récupération. Non seulement c'est très efficace, mais en plus c'est beaucoup mieux toléré. Ici, dans cette étude, ils ont demandé aux patients de coter la difficulté de l'effort. Effectivement, les exercices à haute intensité, on trouve que c'est plus difficile, c'est évident. Mais ils ont demandé également d'évaluer le plaisir que l'on ressent avec ce type d'effort. Et vous voyez, bah certes, on le trouve plus difficile. Par contre, ça nous fait beaucoup plus plaisir de faire ce type d'effort. Alors, maintenant, c'est pour ça que ces exercices à haute intensité sont complètement incontournables au niveau international. Nous, on l'étudie avec des vélos, je ne sais pas ce qui est le plus motivant, mais c'est ce qui est le plus standardisé, mais on peut l'utiliser sous plein de formes différentes, dans l'eau, sous forme d'aquagym, sous forme de danse, sous forme de... Vous voyez, il y a de multiples activités qui peuvent être intense et intermittente, dans le sens où des fois on s'arrête et puis après on recontinue. Donc tout ça, eh bien, ça vient du sport de haut niveau. On n'a pas parlé de renforcement musculaire. On a réalisé un certain nombre d'études, cette fois-ci à l'Institut de gériatrie à Montréal, auprès de personnes très âgées. Alors certaines étaient simplement âgées, 75 ans, d'autres avaient 90 ans à peu près, qui cumulaient un certain nombre de maladies chroniques. Et je ne vais pas rentrer dans les détails du protocole, je vais directement vous donner la conclusion. Mais en tous les cas, on comparait des groupes qui faisaient que les exercices plutôt cardiovasculaires et des groupes auxquels on ajoutait les exercices neuromusculaires, donc de renforcement, toujours à haute intensité. Même si des fois, haute intensité, pour eux, c'est un élastique. Il ne faut pas les imaginer sous une barre comme des athlètes. Et ce qu'ont montré cette série d'études qu'on a réalisées, c'est qu'à nouveau, c'est très bien toléré et c'est très efficace. Et chez ces personnes âgées, comme chez les athlètes, ce qu'on avait publié avant des travaux chez des athlètes de haut niveau, comme chez les athlètes, ce que ça permet, c'est que quand ils se déplacent en marchant, eh bien, ils dépensent beaucoup moins d'énergie. Donc, ils améliorent finalement l'efficacité de la marche. Et à partir de là, ils peuvent donc marcher plus longtemps, beaucoup plus longtemps. Okay ? Donc, vous voyez que ces trois modalités d'exercice, eh bien, elles peuvent être vraiment très intéressantes. C'est ce que font les athlètes, c'est exactement ce que l'on doit faire avec les patients, en gardant à l'esprit que chez les athlètes, majoritairement, 80%, ce sont des exercices à basse intensité. Ben, chez les patients, c'est la même chose. Si on fait trop d'exercices à haute intensité, on risque à un moment soit de blesser, soit d'être trop fatigué. D'accord ? Donc la logique, eh bien, c'est que quand on travaille avec des patients, on doit être aussi précis qu'avec les athlètes de haut niveau. C'est exactement la même chose. Je dirais même qu'on doit être encore plus précis parce que la marge de progrès d'une personne âgée, par exemple, qui souffre d'une maladie chronique, eh bien, elle est moins importante. Donc, pour aller chercher ces petits pourcentages que l'on peut obtenir, eh bien, on ne peut pas se permettre de donner des coups d'épée dans l'eau. Il faut tout de suite être précis et cibler les bonnes adaptations et les bonnes méthodes. Donc, une personne âgée, qu'elle souffre ou non de maladie chronique, eh bien, c'est comme un athlète de haut niveau. Exactement la même chose, sauf que les variables, les valeurs absolues, pardon, sont beaucoup plus basses. Quelqu'un comme Eliud Kipchoge, comme je vous disais, peut courir à 21 km/h pendant plus de 2 heures, là où une personne âgée va marcher à 4 ou 5 km/h, bon, des fois plus, mais sur des durées plus courtes. Donc les valeurs absolues ne sont pas les mêmes, mais les valeurs relatives en pourcentage doivent l'être. Donc, ça, c'est ce que l'on retrouve dans la dose, la posologie, finalement, du traitement activité physique. Maintenant, la posologie et ce que l'on fait, ce que l'on prend comme traitement, c'est important, bien sûr, mais le plus important, ce n'est pas ce que l'on fait à l'entraînement ou lors de ces séances, c'est la façon dont l'organisme s'y adapte. Et il faut trouver la bonne dose. Or, cette dose et l'efficacité de cette dose, elle va dépendre beaucoup du niveau de fatigue. Donc, là, je vais vous présenter le programme que l'on a mis en place pendant 4 ans avec l'équipe de France de natation de 2020 à 2024 dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques. Alors, je vais le faire assez rapidement quand même. Notre mission, en tout cas ce que l'on avait proposé dans cet appel à projet national, c'était de les accompagner pour optimiser les 3 dernières semaines avant les Jeux Olympiques. Et quand on part de ce type de projet, il faut toujours avoir un modèle théorique à l'esprit. Un modèle, c'est tout simplement une représentation simplifiée de la réalité. Et nous, notre modèle est très simple, pour le coup. Alors, c'est un modèle mathématique, mais je vous ai épargné ici l'équation. Ce modèle, de départ, il nous dit qu'à chaque fois que vous faites de l'activité physique ou de l'exercice, ça va avoir 2 conséquences. Ça va générer de la fatigue. Et cette fatigue va être l'élément déclencheur d'un certain nombre d'adaptations de votre corps, périphériques ou au niveau du cerveau également, qui vont vous permettre d'améliorer votre condition physique. Et d'un point de vue mathématique, puisque c'est un modèle mathématique, la performance, peu importe s'il s'agisse de faire un 200 mètres quatre nages ou un 400 mètres quatre nages ou d'aller marcher avec ses petits-enfants dans les bois, la performance, elle dépend de la différence qu'il y a entre ces 2 niveaux, donc de condition physique et de fatigue. Quand on s'entraîne beaucoup, on a un niveau de fatigue élevé, un niveau de condition physique élevé, la différence entre les 2 est faible, donc ce n'est pas là que je serai le plus performant. Et on voit que tout l'enjeu pour les entraîneurs, les athlètes, c'est d'identifier les modalités qui diminuent au maximum le niveau de fatigue sans modifier le niveau de condition physique. Et c'est quand la différence entre les 2 est la plus grande que l'on obtient les meilleurs résultats. Alors, on a réalisé un certain nombre de travaux qui montrent que la stratégie qui, en moyenne, donne les meilleurs résultats consiste à diminuer progressivement, de façon exponentielle, la quantité d'entraînement. Pas l'intensité, Il faut la maintenir, cette intensité, parce que c'est ce qui maintient les adaptations, mais uniquement le volume d'entraînement. Et on va le diminuer par deux pendant à peu près 2 semaines. C'est la stratégie qui, en moyenne, donne les meilleurs résultats. Et le gain auquel on peut s'attendre, c'est de l'ordre de 2% de performance. 2%, ça peut vous paraître peu, mais c'est calculé chez des athlètes de très haut niveau. Et à haut niveau, 2%, c'est la nuit et le monde. Par exemple, Alain Bernard, quand il a gagné le titre olympique au 100 mètres nage libre, il avait battu le record du monde au championnat de France élite, quelques semaines avant les Jeux. Et Eamon Sullivan, qui était son adversaire direct, l'Australien, a battu le record du monde pendant la demi-finale des Jeux. En finale, finalement, c'est Alain Bernard qui gagne, avec 0,4% d'avance sur Eamon Sullivan. Les deux troisièmes, parce que cette fois-ci, il y a eu deux troisièmes, ils sont arrivés avec 0,9% d'écart. Sachant qu'entre les deux, il y avait 0%. Donc s'il y en avait un qui avait été 0,1% plus lent, ou moins rapide, il n'aurait pas eu de médaille olympique. Donc on voit qu'à très haut niveau, 2%, c'est un bénéfice qui est majeur, surtout si on considère que pour l'obtenir, il ne faut pas faire des miracles, hein, il faut juste s'entraîner deux fois moins. Donc c'est quand même intéressant. Par contre, eh bien, tout l'enjeu, puisque l'objectif c'est de l'adapter au niveau de fatigue, ça va être capable d'estimer ce niveau de fatigue pour ensuite développer des stratégies individuelles, ce qui est beaucoup plus difficile. Donc c'était exactement l'objectif du projet d'IDÉE. Je ne vais pas rentrer dans les détails du consortium, mais il y avait une vingtaine de chercheurs qui étaient impliqués. Et les trois étapes étaient assez simples, à partir de ce que je viens de dire. Première étape, eh bien, construire un outil qui permettait d'estimer le niveau de fatigue à un instant T, 3 semaines avant les grandes compétitions internationales, championnat d'Europe, championnat du monde et Jeux olympiques. Une fois qu'on est capable d'estimer ce niveau de fatigue, il faut identifier toutes les stratégies qui vous permettent de diminuer la fatigue sans avoir d'impact négatif sur la condition physique. Donc on a mis en place un certain nombre d'études qui sont intéressées au sommeil, et comment améliorer le sommeil, faisant le pari, enfin l'hypothèse plutôt, qu'en améliorant le sommeil, c'est ça qui allait accélérer tous les processus de récupération. Donc on a travaillé sur la cryostimulation, le froid, l'éducation, des matelas thermorégulants, etc. On pourra revenir si vous voulez dans les questions. Et la dernière étape, eh bien, c'est d'accompagner les nageurs et les nageuses pour qu'ils acceptent de modifier leurs habitudes et qu'ils acceptent d'intégrer de nouvelles stratégies, ce qui est très dur pour eux. De la même façon que c'est très dur pour un patient de changer ses habitudes, c'est très dur pour un athlète de haut niveau de changer ses habitudes à 3 semaines d'une compétition majeure à laquelle, pour la plupart, ils ne participeront qu'une fois. Donc, on a eu toute une stratégie d'accompagnement au changement de comportement avec une équipe plutôt spécialiste de psychologie et psychologie sociale pour l'intégrer à leur routine. Alors, on a développé les outils. Là, vous avez, par exemple, le modèle de compte-rendu que l'on propose aux athlètes 3 semaines avant les grands championnats pour ensuite établir leur stratégie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'ici, on a notre profil de fatigue général qui est établi à partir de 4 sous-profils, profil sommeil, profil psychologique, profil neuromusculaire et profil cardiaque. Là, typiquement, en un coup d'œil, on voit qu'on a quand même un niveau de fatigue assez important. Il n'est pas rouge encore, mais il est orange. Et c'est essentiellement dû à des problèmes de sommeil. Et ensuite, si on veut, on a les annexes qui nous expliquent comment sont calculées ces couleurs. Donc, on a développé l'outil. Ensuite, les méthodes. Comme je vous l'ai dit, on a travaillé beaucoup sur les méthodes qui ont un impact sur le sommeil. Et après, eh bien, l'idée, c'est de les adapter au niveau de fatigue. Donc vous voyez ici, par exemple, avec cet outil, 3 semaines avant les grands championnats, on a le niveau de fatigue général, qui peut être vert, orange ou rouge, et on peut voir s'il est associé ou non à des problématiques de sommeil. À partir de là, eh bien, on place les curseurs différemment. L'affûtage, c'est qu'en fait, on va jouer sur la quantité d'entraînement, on peut ne pas la modifier ou au contraire la diminuer de façon très importante en fonction du niveau de fatigue, et on peut y ajouter ou non les méthodes de récupération qui vont avoir un impact sur le sommeil. Donc on place simplement les curseurs en fonction du niveau de fatigue et du niveau de perturbation du sommeil. Et la dernière étape, comment l'intégrer aux routines des athlètes. Donc là, déjà, on a eu des entretiens avec des médaillés olympiques pour leur demander comment ils géraient ces trois dernières semaines, quelles avaient été, selon eux, les principales difficultés, les leviers qu'ils avaient trouvés pour surmonter ces difficultés, etc. Et ensuite, on a travaillé avec des membres de l'équipe de France. Donc, on a d'abord identifié quelles étaient leurs habitudes, leurs comportements, et quels étaient les déterminants de leur adoption. Qu'est-ce qui faisait qu'ils fonctionnaient comme cela ? En gros, nous, il y a peut-être plus de profils, mais on avait trois profils. Probablement aux alentours des deux tiers, ils le faisaient parce que l'entraîneur le demandait. Ensuite, on a à peu près un tiers qui le faisait parce qu'il voyait d'autres nageurs, d'autres nageuses ou d'autres sportifs connus qui le faisaient. Donc là, on est plus, dans un cas, on applique une consigne, dans l'autre cas, on est plus dans le mimétisme par rapport à des personnes qui ont un impact sur notre imaginaire. Et puis la troisième catégorie, il y en avait assez peu, ce sont celles et ceux qui ont besoin de tout comprendre. Ils connaissent très très bien tous les facteurs qui déterminent la performance, et dans ces cas-là, on leur explique tout de A à Z, et s'ils trouvent ça rationnel et si ça rentre dans leur modèle, à ce moment-là, ils l'appliquent, il n'y a même plus besoin de vérifier, ils vont le faire, c'est certain. Donc vous voyez, trois modèles d'adoption de comportement, mais qu'il faut connaître après pour agir au mieux. Ensuite, dans leur stratégie, on identifie ce qui fonctionne, et là, on les encourage à continuer à l'utiliser, on leur dit que c'est vraiment très bien, qu'est-ce qu'ils en pensent, on partage des expériences, etc. Ensuite, on identifie aussi ce qu'il faut supprimer, qui ne fonctionne pas. Là, on ne leur dit jamais « ça, il faut l'enlever ». Mais une fois qu'on a parlé de ce qu'ils faisaient de bien et de très bien et qu'on l'avait valorisé, on disait « qu'est-ce que tu penses par contre de cette méthode ?» Enfin, pas par contre, mais « qu'est-ce que tu penses de cette méthode ?» Et là, spontanément, ils disent « oui, c'est vrai, je le fais parce qu'on y a accès, mais en fait, ils ne sont pas persuadés de l'utilisation. » Donc, de eux-mêmes, vous voyez qu'ils vont être amenés à l'enlever de leur stratégie. Et puis ensuite, on leur présente les méthodes dont on sait qu'elles sont efficaces pour voir si, ce qu'ils en pensent et s'ils seraient prêts à les tester. Et puis ensuite, on évalue leur efficacité. Donc pour chaque nageur, chaque nageuse, on avait une sorte de fiche individuelle où pour toutes les méthodes chaque méthode qu'on utilisait, il y avait leurs préférences. J'aime, j'aime pas, je déteste. Leurs croyances, je pense que ça joue sur le sommeil, l'inflammation, les douleurs musculaires, la performance, etc. Et à partir de là, on avait tout ce qu'il nous fallait pour établir les stratégies individuelles. Un outil pour estimer le niveau de fatigue, un certain nombre de travaux et une démarche pour savoir comment placer les curseurs et les préférences de chaque nageur, chaque nageuse pour établir la stratégie. Donc, ça, c'est ce que l'on a développé et optimisé avec l'équipe de France de natation entre 2020 et 2024, mais avec l'équipe de France, c'était surtout 2022, 2023, 2024, pour les championnats d'Europe, les championnats du monde et les Jeux Olympiques. Alors, après, comment on peut l'appliquer et comment ça peut être utile ? Il y a une population qui est très, très proche des athlètes de très haut niveau. Ce sont les personnes qui souffrent d'un cancer. Les personnes qui souffrent d'un cancer, il est très bien établi qu'elles ont beaucoup de bénéfices à faire de l'activité physique, à la fois pour elles, bien sûr, pour leur bien-être, aussi parce que, fort heureusement, la grande majorité vont pouvoir reprendre une vie le plus normale possible, reprendre leur travail, donc ça s'anticipe aussi. Et puis, ça joue sur l'efficacité des traitements. Si on garde une bonne masse musculaire, un bon niveau de force, une bonne aptitude cardiovasculaire, les traitements vont être plus efficaces. La difficulté auquel ils et elles font face, c'est la toxicité des traitements. Donc, tout le monde le sait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais même si cette toxicité, quand même, les traitements sont de plus en plus optimisés, certainement c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques années, mais néanmoins, ce sont des traitements qui sont très agressifs et qui vont induire une certaine toxicité au niveau de différents organes. Et tout cela, la conséquence principale, ça va être un niveau de fatigue très élevé. Et quand je dis très élevé, j'aurais dû mettre très en gras et en lettres majuscules, un point souvent qu'on sous-estime. Dans cette étude, par exemple, qui date, mais qui est quand même très intéressante, ils ont interrogé 419 patients et 205 professionnels de santé qui suivaient les patients qui souffrent d'un cancer. Vous voyez que pour les patients, eh bien, pour 78%, la fatigue affecte le quotidien. 61%, ça affecte plus la vie, leur vie que le cancer. C'est pour ça que certains, à un moment, décident d'arrêter le traitement. Puisque quand l'issue, malheureusement, ne fait plus de doute, autant arrêter de souffrir jusqu'au bout. Ensuite, eh bien, vous voyez que ça impacte également un certain nombre d'aspects du quotidien de ces patients. Et 12%, voyez, indiquaient qu'ils voulaient mourir tellement le niveau de fatigue était élevé. Donc cette fatigue, c'est vraiment quelque chose de très important chez les patients qui souffrent d'un cancer. Bon, ça dépend bien sûr du stade du cancer et des traitements utilisés. Ce n'est pas une généralité, mais pour les traitements, en tous les cas, les plus utilisés. Qu'en est-il du côté des professionnels de santé? Comment ils le perçoivent? Ils le savent. Ils le voient au quotidien, les patients. Mais vous voyez, pour eux, ce n'est que 26% des professionnels de santé contre 78% des patients, 78% des patients qui considèrent que la fatigue affecte plus la vie des patients que le cancer. D'accord? Donc, ils le savent, mais ils ne se rendent pas compte à quel point c'est important. Aussi, peut-être parce que les patients ne le disent pas. Ils pensent que c'est normal. C'est normal d'être fatigué. Mais en tous les cas, vous voyez que cette fatigue, c'est un élément très important dans la prise en charge des patients. Et le problème, quand on a un niveau de fatigue qui est trop élevé, c'est que ça va induire une modification des habitudes de vie. On va moins bouger. Quand on va bouger, ça va être moins intense. Et vous voyez que dans ces cas-là, on engage la spirale négative. On a une baisse de notre dépense énergétique. Je vous ai dit que c'était l'élément central, la dépense énergétique. On a un déconditionnement physique. Donc notre cylindrée va baisser. On va avoir moins de masse musculaire, moins de force. Ce qui va contribuer à la sarcopénie. La sarcopénie, c'est la fonte musculaire. À la perte d'autonomie. Et tout ça, bien sûr, va avoir un impact très négatif sur l'efficacité du traitement. Donc, on voit que la fatigue chez ces patients, ça peut être le point de départ d'une spirale vraiment très négative. Par ailleurs, eh bien, on sait que l'activité physique ou les exercices à dominante cardiovasculaire, neuromusculaire ou qui combinent les deux, c'est très efficace sur le niveau de fatigue. Là, ce sont les résultats d'une méta-analyse. Une méta-analyse, en fait, ça vous donne un niveau, une amplitude d'efficacité. Quand c'est zéro, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet sur la fatigue ici. Quand c'est au-dessus, la partie haute de la figure, ça veut dire qu'il y a une augmentation de la fatigue. Et quand c'est dans la partie basse, ça veut dire qu'il y a une diminution de la fatigue. Et vous voyez que chez ces patients, peu importe que ce soit l'activité physique spontanée ou des séances cardiovasculaires, neuromusculaires ou combinées, donc encadrées par un professionnel de l'activité physique, dans tous les cas, c'est efficace. Et c'est d'autant plus efficace que l'intensité est élevée. Donc ici, vous avez les bénéfices en fonction de l'intensité d'exercice. Et comme chez les athlètes, quelque part, si on veut baisser le niveau de fatigue, il faut améliorer la condition physique à un moment et il faut utiliser quand même une certaine intensité. Donc vous voyez que le profil des patients qui souffrent du cancer, d'un ou plusieurs cancers, eh bien, c'est quasiment le même que ces athlètes de très haut niveau que je vous ai présenté avant, qui préparent les Jeux Olympiques ou d'autres types de compétitions. Donc on met en place des projets, là on en a un qui débute tout juste avec la Ligue contre le cancer par exemple, où eh bien, on réutilise exactement les démarches, les outils, les méthodes que l'on a développées avec l'équipe de France de natation. On peut l'utiliser avec ces populations particulières, on peut l'utiliser aussi avec d'autres populations, on a monté donc, des formations pour les dirigeants d'entreprise, pour les cadres, donc toutes les personnes pour qui également fatigue, récupération, sommeil perturbé, niveau d'anxiété majeur, etc. sont des freins à l'efficacité. Donc vous voyez que toutes ces innovations, encore une fois, qui viennent du sport de haut ou de très haut niveau, peuvent avoir un impact et être réutilisées avec d'autres populations pour lequel on ne se serait jamais imaginé qu'on allait faire la même chose qu'avec Johan Ndoye ou Florent Manaudou, etc. Donc, si je résume, je vous ai donné deux exemples, hein, avec les exercices à haute intensité et puis là, le suivi du niveau de fatigue. Mais il y a d'autres exemples, hein, qui montrent que, ben oui, un patient, une personne qui souffre d'une maladie chronique, c'est comme un athlète de haut niveau. Ce sont les mêmes modalités et on doit être aussi précis, voire même plus précis. Donc pour tout cela, on sait que ça fonctionne, on a des niveaux de preuve assez élevés. Pour autant, est-ce que ça a un vrai impact sur la société? Est-ce que notre société adopte un mode de vie physiquement actif connaissant tout cela? Ben malheureusement, la réponse est non. Sur cette figure, vous avez l'évolution de la condition physique de la population mondiale. En moyenne, ici à droite, et j'ai mis quelques exemples de différents pays pour vous montrer quand même que ce n'est pas tout le monde qui a cette diminution progressive de la condition physique, ça dépend des pays. Mais globalement, quand même, on voit que chez les enfants, il y a eu une diminution importante, là qui semble se stagner. Et puis chez les adultes, ça continue de baisser régulièrement. C'est un gros problème, parce que la condition physique, c'est votre facteur santé, c'est votre capital santé. Meilleure est votre condition physique, meilleure est votre capacité d'adaptation face à différents stress auxquels vous pouvez être confronté, une maladie chronique étant quand même un stress majeur. D'accord ? Chez les enfants, c'est très important également, parce qu'il y a un lien direct entre l'évolution de leur condition physique, l'oxygénation de leur cerveau, le développement cérébral et les performances académiques. C'est la même chose pour les étudiants, pour les professeurs aussi. D'accord ? Donc, plus on est actif, on n'a pas besoin d'être un champion. Mais quand on se compare à soi-même, à chaque fois qu'on augmente un peu notre aptitude cardio-respiratoire, on améliore un peu notre capacité, la capacité de notre cerveau à mieux respirer et à mieux utiliser son oxygène, ce qui va avoir des conséquences sur les fonctions cognitives comme la mémoire. Donc, ben, vous voyez, c'est une diminution continue. Si on regarde l'activité physique, donc là, ce n'est plus la condition physique, mais la façon dont on bouge, est-ce qu'on atteint ou non ces fameux 1000 mètres minutes par semaine? Ici, donc, vous avez sur la partie de gauche les hommes, sur la partie de droite les femmes, avec un code couleur qui est que plus ça tend vers le jaune, plus on est actif. Plus ça tend vers le rouge, moins on est actif. Alors, on voit que ça dépend, c'est très hétérogène dans le monde. Il y a des différences hommes-femmes. Après, il faut toujours être prudent sur les différences hommes-femmes, parce que tout cela va être évalué avec des questionnaires. Donc, on ne répond pas toujours avec la même honnêteté aux questionnaires. D'accord ? Mais néanmoins, vous voyez que l'activité physique, alors que maintenant, il est très, très bien établi que ça a un impact sur la prévention des maladies chroniques, la qualité de vie et sur le traitement des maladies chroniques, eh bien, en fait, on est toujours quand même globalement assez peu actif. Si on regarde à l'échelle de l'Europe, vous avez la moyenne en rouge au milieu. Donc, vous voyez que c'est à peu près 35% de personnes qui sont inactives. C'est toujours très surprenant comme statistique. Ça veut dire qu'il y a 75% en moyenne des individus qui sont actifs. Ça fait beaucoup. Mais néanmoins, peu importe. On voit que ça dépend beaucoup des pays. Il y a des pays comme ici les pays nordiques, eh bien, il y a très peu d'inactifs. Et puis d'autres pays, plutôt ici, où il y en a un peu plus. Donc encore une fois, il y a une hétérogénéité. Mais malgré tout, on ne peut pas considérer qu'on a des sociétés vraiment actives dans leur ensemble. Donc tout cela, ça montre quoi ? On connaît les bénéfices de la condition physique et son importance. Malgré tout, ça diminue de façon continue. On connaît les bénéfices de l'activité physique. Malgré tout, on a des sociétés qui, même si ça s'améliore, ne sont pas non plus hyper actives. Donc tout ça, ça montre que enseigner ou éduquer, quelque part, là c'est une citation d'Anaximandre, un philosophe grec contemporain de Thalès, enseigner ou éduquer, ça n'est pas remplir un vase à coups d'arguments, hein, dire il faut faire ça parce que ça, il faut faire ça parce que ça, il ne faut pas faire ça parce que ça, etc. c'est plutôt allumer un feu, créer une émotion. Et là, il ne faut pas des grands discours pour créer une émotion. Et tout l'enjeu, il est là. Alors, ça peut paraître surprenant, mais en fait, ça fait quand même un certain temps qu'on sait que ce sont les émotions qui sont au centre de tout. Et ça, on a commencé à s'y intéresser à la fin du 19e siècle, avec un cas, Phineas Cage, un employé des chemins de fer américains, qui a eu un accident, et il a ce pieu, vous voyez, qu'il tient dans la main, qui lui a traversé le crâne. Il a survécu, vous le voyez. À l'issue de son accident, il savait toujours lire, toujours écrire, toujours compter. Par contre, il était complètement incapable de prendre la moindre décision. Impossible. Et qu'est-ce qui a été détruit dans son cerveau à cause de ce pieu? La zone des émotions. Pour prendre une décision et changer d'habitude, adopter une nouvelle habitude, c'est une décision importante. Eh bien, vous voyez que pour prendre une décision, en fait, on s'appuie sur nos émotions et pas sur des argumentaires de 3 pages qui vous expliquent tout ce qu'il faut faire. Le problème que l'on a, c'est qu'en fait, ben vous voyez, nous sommes des êtres de comparaison plutôt que de raison, c'est-à-dire qu'on va plutôt avoir tendance, au lieu de faire marcher notre argumentaire, etc., on va plutôt avoir tendance à se comparer à notre tribu sociologique, hein, à faire ce que font les personnes à qui on s'identifie. Nous sommes des êtres d'émotion, je viens de le dire, de contexte. Nos décisions varient complètement d'un contexte en fonction du contexte, qui est complètement irrationnel. Nous sommes des êtres d'habitude, très difficile pour nous, même biochimiquement, de changer d'habitude. Et nous sommes des êtres d'intuition. Bref, nous sommes des êtres irrationnels. Donc, voilà, quand on parle d'activité physique, d'habitude de vie, de santé, eh bien, oui, on connaît bien tout ce qu'il faut faire. Ça a bien été décrit de façon rationnelle, publié. On a des niveaux de preuves qui sont quand même élevés, des fois très élevés. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut qu'on développe des choses pour des individus, nous tous, hein, il n'y a pas d'exception, qui sont irrationnels. Donc, ben tout ça, ça montre que l'enjeu, c'est de prendre de la hauteur. Ce modèle ici, c'est ce qu'on appelle le modèle des déterminants de santé, qui vous explique que oui, pour qu'une population soit en santé, certes, il y a des facteurs individuels. Mais les facteurs individuels, c'est une toute petite partie. En fait, il y a tout un environnement à organiser pour faciliter l'adoption de nouvelles habitudes, pour faciliter la prise de décision favorable pour le santé, que ce soit d'aller à la fac à vélo ou en voiture, que ce soit de manger un peu plus de légumes, ou peu importe. Il faut que l'environnement le facilite. Donc, on ne peut pas toujours mettre la responsabilité sur l'individu en tant que tel. Et vous voyez que dans les autres niveaux, eh bien, on a des facteurs liés au style de vie, mais on a des facteurs environnementaux, plutôt sociaux, on a des facteurs socio-économiques, culturels, environnementaux, la qualité de l'air, politique également, selon les pays, le contexte politique permet ou ne permet pas, enfin l'organisation plutôt, permet ou ne permet pas l'accès à tel ou tel type d'activité, etc. Donc, il faut vraiment prendre en compte l'ensemble de l'environnement pour espérer que tous ces travaux aient un impact à un moment sur une population. Alors, à l'échelle de la Vienne, on a essayé d'organiser tout cela depuis quelques années déjà, avec notamment un réseau qui s'appelle Sport Santé 86. C'est un réseau financé par la région et l'ARS, plus un certain nombre d'autres acteurs. Mais vous voyez que sa mission, c'est d'animer un réseau d'acteurs à l'échelle du département. Donc vraiment à l'échelle de l'environnement. Donc on travaille avec les collectivités, avec d'autres associations, avec des structures privées, etc. Donc animer un environnement, un territoire. Ensuite, c'est sensibiliser la population et puis développer l'offre de pratique. En un peu moins de 10 ans, je ne sais même plus quand on l'a lancé, non, ça doit faire 7 ans à peu près, Sport Santé 86, eh bien, on a pu développer un maillage qui fait qu'à l'heure actuelle, n'importe quel habitant de la Vienne a une structure qui peut l'accueillir dans le cadre du sport sur ordonnance à moins de 15 minutes de son domicile. C'est un exemple d'organisation du territoire pour faciliter les décisions individuelles. Ensuite, au niveau académique, très souvent, on a les physiologistes qui vont faire des études de physiologie, les biomécaniciens qui vont faire des études de biomécanique, mais c'est rare qu'on fasse des études vraiment interdisciplinaires où on va combiner des chercheurs de différents profils pour essayer d'avoir une plus-value. Donc on a créé ce qu'on appelle un Living Lab, je vais y revenir, qui s'appelle Life in Motion, c'est en anglais parce que c'est un Living Lab international, qui s'intéresse justement aux habitudes de vie, à l'activité physique et à la santé. Et ce Living Lab, eh bien, il fédère des acteurs académiques, donc des chercheurs issus de plus de 25 laboratoires, eux-mêmes provenant de 7 pays différents. Il fédère des acteurs territoriaux, la région, le département, Grand Poitiers, l'ARS, la DRAGES, enfin des structures de l'État. Il fédère également des entreprises, des bénéficiaires. Donc vous voyez, c'est tout un écosystème, finalement, qui s'est réuni pour monter ensemble les projets. Et ça, c'est très important. Quand on veut, à l'échelle d'un territoire, développer un programme de prévention et de promotion de la santé, oui, on peut s'appuyer sur ce qui a été fait sur les athlètes de haut niveau, etc. Mais la clé, à un moment, c'est de communiquer sur ce programme et de le financer. Si on ne pense pas à ça dès le début, au début, on a une subvention, on peut le mettre en place, mais quand la subvention s'arrête, on ne peut plus rien faire. C'est pour ça qu'au début, quand on travaille avec tous ces écosystèmes, on envisage tout de suite le modèle économique pour savoir, une fois qu'on aura montré que ça fonctionne, comment le pérenniser ? Qui sont les acteurs autour de la table, que ce soit les collectivités, l'État, des entreprises, qui seront à même de le mettre en place et de le faire perdurer ? On s'appuie beaucoup sur la science citoyenne, la science participative. Les bénéficiaires, les entreprises font partie de l'équipe scientifique pour qu'on ait des protocoles qui ne soient pas complètement déconnectés de la vraie vie. D'accord ? Et voilà. Donc, vous voyez que c'est une autre façon d'organiser finalement le territoire et de jouer sur l'ensemble de ces déterminants plutôt que de se cibler sur des facteurs physiologiques, individuels, etc. Et pour mettre en place tout cela, après, au niveau de la population, on a besoin de structures de transfert. Et nous, c'est ce que l'on a mis en place, comme c'était dit tout à l'heure, qui a été inauguré il y a un an et demi, peut-être, de mémoire, c'est le QG, Habitudes de vie, sport, santé, donc qui est la pierre angulaire du Living Lab international, qui est situé à côté de Prométhée, sur le campus du Futuroscope. Donc c'est un espace où on va retrouver une cuisine pédagogique avec ses postes de travail, un gymnase connecté, une salle de fitness, des espaces modulaires, et puis c'est un lieu très convivial pour que les personnes qui sont éloignées des bonnes pratiques ou des bonnes habitudes de vie se sentent bien, ne se sentent pas jugées. Et là, on développe un certain nombre d'actions. C'est une plateforme de recherche, mais dont l'objectif, c'est vraiment de développer des interventions liées à la prévention et à la promotion de la santé. C'est articulé avec les formations, et à nouveau, on retrouve les mêmes éléments, c'est de la science participative, etc. Donc, voilà, vous voyez qu'à l'échelle du territoire, eh bien, on essaye d'organiser tout l'environnement pour que ces innovations qu'on a la chance de pouvoir développer avec les athlètes de haut niveau, eh bien, elles puissent avoir un impact concret sur la population. Voilà ce que je voulais vous donner comme élément, finalement, au cours de cette présentation, pour montrer qu'il y a un lien évident entre ces deux populations, mais que pour vraiment on soit efficace, eh bien, il faut avoir une approche beaucoup plus holistique qui s'intéresse au territoire et à son organisation plutôt qu'aux individus seuls. Je vous remercie de votre attention.